Bonjour à tous. Vous êtes sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, fréquence 91.3. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième émission des Jeunes Reporters Européens, une émission animée par les volontaires de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, autrement appelée MEBA, ce sera plus simple. Aujourd'hui sont présents Joao, Andrés, Rachel, Johanna, Alex et moi celui-ci. En ce mois de novembre, nous mettons à l'honneur un pays dont on entend peu parler. Je laisse mes camarades vous le faire deviner.
Peu moins de 5,5 millions d'habitants qui a intégré l'Union européenne en 2004.
Au cœur du continent européen, ses voisins sont l'Autriche, la République tchèque, la Pologne, l'Ukraine et l'Hongrie.
Il s'agit donc d'un petit pays d'Europe centrale. Maintenant, chers auditeurs, si nous vous disons que ce pays est souvent confondu avec la Slovénie à cause de son nom et qu'il a fait partie de la Tchécoslovaquie, vous aurez sans doute deviné qu'il s'agit de la Slovaquie. Nous souhaitons partager avec vous ce que nous avons appris sur ce pays grâce à nos deux volontaires slovaques, Lucia et Susanna. Vous aurez l'occasion de les entendre au cours de cette émission, mais tout de suite, le sommaire avec Rachel.
Merci Lucie. Nous irons du côté de la capitale Bratislava, que Lucia et Susanna nous ont fait découvrir lors de la soirée slovaque, qui vient d'avoir lieu à la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Nous verrons comment l'image des visiteurs avant du pays a changé entre le début et la fin de la soirée. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter un groupe slovaque de reggae. La cuisine slovaque ne sera pas oubliée, ainsi que quelques références littéraires. Puis, pour mieux comprendre encore la Slovaquie, Johanna et Alex reviendront sur son indépendance en 1993. En interviewant Lucia, ils auront le point de vue d'une Slovaque sur cet événement essentiel pour l'histoire du pays. Enfin, nous citerons rapidement la Slovaquie sur les scènes internationales et européennes d'aujourd'hui. Et aussi, on parlera d'un week-end à l'étranger avec Joao et moi-même.
Merci Rachel. Pour commencer, écoutons ce que nous savons de la Slovaquie ici en France.
Salut, je m'appelle Bertie. Je suis à la Maison de l'Europe depuis l'année dernière où j'ai travaillé en tant que service civique.
Est-ce que tu connaissais quelque chose sur la Slovaque avant de la présentation ?
Oui, bien sûr, puisque j'ai travaillé à la Maison de l'Europe l'année dernière en binôme avec Susanna, qui était slovaque. Donc, ahoy, je peux vous parler slovaque un peu.
Je suis Audrey, je suis en service civique à la Maison de l'Europe. Avant la soirée sur la Slovaquie, j'avais pas vraiment d'idée. Je pensais que c'était plutôt un pays pauvre où il se passait pas grand-chose.
Personne ne connaît vraiment la Slovaquie, je pense. Je suis allé en République tchèque, mais jamais en Slovaquie.
Bon. Il semble que la Slovaquie soit peu connue des Français, à l'exception des jeunes qui ont déjà été en service civique à la MEBA, comme Bertille. Pour ma part, quand on me parle de Bratislava, je pense à ce tube de l'été 2003.
Tabor, Tabor, gagnes.
Alors non, cette chanson n'est pas chantée en slovaque et les Bratislava Boys n'est pas un boys band slovaque, mais un groupe fictif formé par le français Michael Youn pour parodier le concours de l'Eurovision. Mais grâce à Susanna et Lucia, je sais désormais que Bratislava est la plus grande ville du pays et qu'elle se situe à l'extrême ouest, ce qui fait qu'elle n'est distante de Vienne que de 60 km, de la frontière hongroise de 10 km et de la République tchèque de 80 km.
Mais si vous restez à Bratislava, vous aurez déjà beaucoup de choses à faire, parce que toutes les saisons de l'année se prêtent à des activités touristiques. Les filles nous ont donc présenté le temps propice aux sorties dans les musées et autres lieux culturels comme les théâtres, galeries, cinémas et salles de concert. Grâce à sa position centrale en Europe, Bratislava possède un riche patrimoine multiculturel.
Et savez-vous qu'en hiver, vous pouvez faire des... Et ski, non loin de la ville. Et oui, cela est possible parce que le massif des Carpates a commencé sur le territoire de Bratislava. D'ailleurs, le majestueux château qui surplombe la ville est ouvert au public. Et au printemps, amusez-vous à vous prendre des photos côté des statues de bronze que vous trouvez dans la ville. Les statues de Monsieur Camille, par exemple, vous surprendra sortant d'une bûche de Dego. Bratislava regorge d'autres curiosités qui ont surpris nos visiteurs.
Au niveau de l'architecture, par exemple, la navette qui fait office de restaurant, ou encore le pont qui aurait pu s'appeler Chuck Norris.
Et oui, c'est vrai, il aurait pu s'appeler pont Chuck Norris, car les Slovaques avaient voté pour ce nom, mais les Autrichiens l'ont refusé.
Je ne sais pas quoi penser. Quand à Bratislava en été, sachez que l'auberge du beau Danube bleu vous accueillant comme si vous étiez à la plage et vous permettant en plus de pratiquer des sports nautiques. La ville offre aussi de nombreux événements en plein air gratuits, comme des projections, des films, des concerts et même l'un des plus importants festivals de musique reggae en Europe, l'Uprising Festival.
Comme vous allez l'entendre, cette saison a fait l'unanimité parmi les participants à la soirée.
Ce qui me donnait vachement envie de venir, c'était pendant l'été, parce qu'il y a l'esprit de fête, mais aussi les montagnes à visiter et toute la ville qui a l'air splendide.
I think I would like to visit in summer because of the festivals.
Même Susanna, qui est slovaque, préfère l'été. D'ailleurs, nous ne pouvions faire cette émission sans entendre la langue slovaque. Voici Susanna qui se présente dans sa langue.
Volám sa Zuzana, mám 25, som zo Slovenska a momentálne žijem v Bordeaux. Nakoľko som tu ako európska ambasádorka v Maison de l'Europe.
Nous évoquions tout à l'heure l'Uprising, le festival de reggae que Lucia affectionne particulièrement. Nous allons donc écouter le morceau Reggae Musica de Medial Banana.
Oh oh, toto je reggae musica. Oh oh, slnko sa vody dotýka. Oh oh, do srdca preniká.
Reggae musica.
Reggae musica.
Reggae muzika mi pomáha čistí mi srdce. Reggae muzika chill na jazere leto horúce. Reggae muzika teraz od starosti do pece. A ešte tam prílož, nech sa to peče, peče. Do čalby prílož, nech sa čas nevleče, vleče. Máku sediť vonku a robiť skeče, skeče. Počúvaj tú hudbu, čo do uši ti hrá. Dneska strikne pozitívna vibrácia.
Wo-o, toto je reggae muzika. Wo-o, slnko sa vody dotýka. Wo-o, do srdca preniká.
Reggae muzika.
Reggae muzika. Wo-o, toto je reggae muzika. Wo-o, slnko sa vody dotýka. Wo-o, do srdca preniká.
Reggae muzika.
Reggae muzika.
Veka farba pleti nás tu nezaujíma. Dobrá nálada, všetci bavíme sa. My a vy a reggae, vibrácia. Jedna láska v nej, celá kreácia. Všetko sa to zlialo, to kvapky šťastia. Oheň, voda, vzduch a zem tu emóciu mi vracia. My a vy a reggae, ledná vibrácia. My a vy a reggae, ledná vibrácia.
Wo-o, toto je reggae muzika. Wo-o, slnko sa vody dotýka. Wo-o, do srdca preniká.
Reggae muzika.
Hey. Reggae muzika. Wo-o, toto je reggae muzika. Wo-o, slnko sa vody dotýka. Wo-o, do srdca preniká.
Reggae muzika.
Reggae muzika. Ra.
C'était Reggae Musica du groupe Medial Banana.
Une autre caractéristique a passionné les participants de la soirée slovaque, la cuisine. Nous avons dégusté des toasts avec de la pâte à tartiner à l'œuf et au thon, des strudels, je ne sais pas si je le prononce bien, comment on dit ?
Oui, c'est des strudels.
Des strudels aux pommes et des strudels aux pavots et à la cerise. Cette cuisine a été appréciée, mais c'est surtout la bière qui a suscité le plus de réactions. Il faut dire que notre reporter allemand, Alexander, nous a beaucoup interrogé à ce sujet.
As-tu aimé les spécialités slovaques ou du bière slovaque?
Bien sûr, je suis une grande fan de la Steiger. Après, un peu déçu qu'il n'y ait pas la Steiger au gingembre parce que c'est vraiment ma préférée. Mais pour ça, il faut venir au marché de Noël à Bayonne la semaine du 10 au 15 et vous aurez tout un échantillon de bière brune.
Est-ce que tu peux te présenter?
Gwenaël, la marque directeur de la Maison de l'Europe de Bordeaux-Aquitaine.
As-tu aimé les spécialités slovaques ou du bière?
La bière, je n'ai pas bu parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais les petits pains avec du thon et des œufs, c'est vraiment bon.
Ça, c'est vrai que la bière, ce n'est pas bon pour la santé, mais en Slovaquie, la bière est moins chère que de nombreuses boissons non alcoolisées.
Mais pour moi, la bière slovaque Steiger est trop douce.
Mes amis, vous me donnez soif, mais passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Nous avons interviewé la présidente de l'association Slovaque Aquitaine et elle nous a parlé notamment des certains liens culturels entre la Slovaquie et la France. Écoutons-la.
Je m'appelle Gabriela Ziakova et je suis la présidente de l'association Slovaque Aquitaine. L'association existe depuis le juin 2008. Nous l'avons fondée plusieurs... parce qu'en 2008, Bordeaux était candidate au titre de la capitale européenne de la culture. Et donc, en même temps, il y avait la Slovaquie, donc il y avait Košice, qui sont devenus la capitale européenne de la culture avec Marseille. Et donc, nous avons fondé cette association pour diffuser non seulement la culture slovaque, mais aussi la culture française en Slovaquie, pour faire une passerelle, pour un petit peu parler des relations qui ont existé ou qui existent dans le paysage aquitain, non seulement à Bordeaux, mais dans toute l'Aquitaine et aujourd'hui dans la Nouvelle-Aquitaine.
Ce sont des relations qui sont anciennes ou récentes?
Il y a les deux. Donc il y a des relations qui existent déjà depuis au moins la Première Guerre mondiale. Et puis il y a des relations nouvelles, comme par exemple la ville de Cognac, qui est la première ville de la Nouvelle-Aquitaine, qui est jumelée avec une ville slovaque qui s'appelle Michalovce. Et par ailleurs, cette ville apparaît dans le roman de Andrea Salajova, « Eastern », qui aujourd'hui concourt au Festival Littérature Européenne à Cognac. Cette ville, elle est vraiment très très loin par rapport à Bratislava et donc c'est vrai qu'elle garde un petit peu plus ce côté authentique que les grandes métropoles. Et donc c'était très très intéressant que cette cinéaste slovaque prend comme lieu de son roman Michalovce.
Et vous êtes slovaque?
Moi, je suis slovaque, originaire de Žilina. Žilina est située à 200 km au nord de Bratislava et on va dire que c'est un nœud de transport très important parce que nous avons la Silésie tchèque, la Silésie polonaise. Voilà, c'est une ancienne voie teutonique.
Vous connaissez un peu Bratislava?
C'est un lieu très important pour moi et pour les relations avec Bordeaux parce que Bordeaux est lié avec Bratislava grâce à la voie surréaliste. On le sait très peu, il y a eu un groupe surréaliste Parapluie Chat à Bordeaux dans les années 60-70 et il y a eu Jacques Abeille, par exemple, qui a publié un surréaliste slovaque, Albert Marenčín, dans les éditions Même et Autres. Et dans les années 80, cet écrivain, cet artiste, ce surréaliste a entrepris un voyage très très dangereux de Bordeaux jusqu'à Bratislava pour apporter tous ces livres que les surréalistes à Bratislava n'ont pas pu imprimer. Et ces livres, on les trouve dans la bibliothèque de Meriadec à Bordeaux.
C'était donc Gabriela Ziakova, présidente de l'association Slovaquitaine. Faisons un autre bond dans le temps, si vous le voulez bien, avec Johanna et Alex.
Merci Lucie et dobri den à tout le monde. Et je laisse la parole à Alex.
comme on l'a précisé tout à l'heure, la Slovaquie est devenue, en plus correctement redevenue, indépendante le 1er janvier 1993. Le choix de poursuivre son propre chemin tient, en gros, à deux éléments. L'un lié à la situation économique du pays et l'autre lié à la volonté forte de la classe politique au pouvoir.
Quels sont les facteurs, les raisons qui ont conduit à la séparation de la Tchécoslovaquie?
Alors, à mon avis, c'est tellement important de souligner que cette division était une décision politique, on peut dire, et tout était conduit en paix. Donc, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de violence, on se séparait en paix. Donc, les facteurs et les raisons, c'est un peu compliqué, mais pour le simplifier, on peut dire qu'on n'était jamais un pays, on n'était jamais unis, on était tout le temps, c'était les Slovaques et les Tchèques. Bien sûr que nous sommes proches, on y était même avant. Mais il y avait toujours ces petites différences présentes. La langue était reste pareille, mais les racines sont plus ou moins les mêmes. Mais à l'époque, c'était plutôt la situation économique qui nous a divisés. La situation économique et politique, bien entendu. La Tchéquie était toujours sur le côté industriel et la Slovaquie le côté agricole.
Donc une situation politico-économique qui est loin d'être homogène entre les deux pays. Et l'échec de faire émerger une identité commune tchécoslovaque à laquelle s'identifierait l'ensemble de la population. Mais est-ce suffisant pour procéder à la division d'un pays? J'en doute. La deuxième question qui se pose est de savoir si le caractère exclusivement politique de la décision peut légitimer une telle division. Sachant que, juste un élément de compréhension, le peuple tchécoslovaque, a priori directement touché et concerné, n'avait aucune emprise sur ces décisions. Une décision critique pour l'avenir du pays, pour leur propre avenir.
De mon point de vue, pour les Slovaques, la séparation de la République tchèque était plutôt un pari qui consistait à se prouver à eux-mêmes qu'ils pouvaient devenir un pays indépendant.
Avec du recul, tu les estimes ces raisons justifiées?
Alors moi, personnellement, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que ces raisons étaient justement politiques. Il y avait le gouvernement, les grandes parties qui étaient au pouvoir et les représentatifs qui ont décidé de séparer le pays. Après, il y avait l'opposition qui a proposé de faire un référendum. Donc, donner la possibilité aux habitants d'exprimer en fait leur opinion aussi sur la situation. Mais c'est ce qui ne s'est pas réalisé parce que les grandes parties qui étaient au pouvoir, ils ont dit que ça serait irresponsable politiquement de donner le choix au peuple. Donc, à mon avis, je ne trouve pas les raisonnements justifiés. Mais voilà, ce qui s'est passé, on ne peut rien changer.
L'indépendance n'est pas un concept abstrait, vidé de tout sens. C'est quelque chose de concret qui présuppose pour toutes les parties impliquées une certaine préparation. Ce qui n'a pas été le cas pour les Slovaques qui ne savaient pas à quoi s'attendre. Certes, la séparation était pacifique et aucune goutte de sang n'a été versée comme ça a été le cas dans les pays de l'ex-Yougoslavie, mais cela n'empêche pas que la période de transition fut délicate.
Comment tes parents ont vécu la séparation tchécoslovaque?
Alors, je vais parler plutôt de la génération de mes parents, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de ça avec mes parents. On l'a accepté comme une situation... On l'a accepté juste. Moi, j'ai appris la plupart des informations à l'école. Mais comment ils ont vécu... Voilà, c'était juste après la fin du communisme en Slovaquie, en 1989. Et voilà, donc avant, c'était plutôt... L'ambiance était euphorique. Et pendant et après la séparation, on savait quoi? On ne savait pas ce qui nous attendait. On ne savait pas du tout. Donc, c'était comme si on était né de nouveau. On ne savait pas. On commençait de zéro. C'était plutôt ça.
La Slovaquie peut ainsi se comparer à un nouveau-né qui s'apprête à prendre des initiatives et à les concrétiser. Cependant, cette concrétisation était ralentie par les déclenches psychologiques du peuple entre la période qui a suivi la fin du régime communiste et la période après la séparation.
Quel mot décrit le plus, tu penses, les sentiments des Slovaques quand ils se remémorent la période avant la séparation?
Donc, vous voulez qu'un seul mot, c'est ça? C'est quand même un peu compliqué, mais comme je vous ai dit, avec la fin du communisme chez nous, avec la révolution de velours qui se déroulait en novembre 1989, l'ambiance était un peu ambiguë. On peut dire que juste après la révolution de velours, je peux décrire l'ambiance où utiliser le mot l'euphorie. La peuple, tout le monde était en euphorie. On savait, on était tellement heureux que cette période était juste derrière nous. Et ce qui s'est passé après la séparation elle-même en 1993, peut-être, on peut dire désaccord. Oui, que la séparation était, c'était un choix politique, pas un choix du peuple. Je pense que c'était plutôt désaccord.
Chaque génération perçoit de manière différente cette séparation. Une certaine nostalgie chez les plus âgés. N'oublions pas que sous l'ancien régime communiste, les personnes étaient obligées de travailler. Il me semble que le mot qui décrit le plus l'état psychologique de ces personnes, c'est le choc. Du jour au lendemain, tout ce qui était pris comme acquis ne l'était plus. Une certitude sociale qui fait défaut à la génération actuelle. Par exemple, suite à la séparation, pour franchir la frontière qui sépare les deux pays, il fallait être muni d'un passeport. Quoique, maintenant, on ne peut pas nier que ce ressenti d'incertitude n'est pas propre au peuple slovaque, mais qu'il touche toute notre génération. On est en plein milieu d'une crise économique. C'est la crise, quoi. Et chez les jeunes d'hier et d'aujourd'hui, les retombées de la séparation sont principalement liées aux droits et libertés dont ceux-ci peuvent désormais jouir. On sait très bien à quel point les régimes communistes étaient oppressifs et bafouaient les droits de l'homme les plus élémentaires. La Slovaquie ne fait pas exception.
Tu penses que ce sentiment varie en fonction de l'âge des personnes ?
Je pense que ça a bien changé avec les années qui ont suivi la séparation. Je pense que ces sentiments varient aussi si on parle de la génération de moi. La mienne, génération de gens qui sont encore moins jeunes que moi, après la génération de mes parents et la génération de mes grands-parents. Donc, si je parle de la génération de mes parents, oui, ils étaient heureux. On peut dire, ils attendaient ce qui allait se passer et tout ça. Cette période a donné beaucoup, beaucoup de possibilités à tous qui voulaient lancer son propre business. À mon avis, cette période d'or pour lancer un business pour les entrepreneurs. Mais après, pour la génération de mes grands-parents, c'était quand même compliqué parce qu'ils ont vécu dans le socialisme, communisme. Ils nous disent maintenant, il y en a qui disent qu'avant, qu'il n'y avait pas de chômage, qu'il n'y avait pas de SDF, que tout marchait comme il fallait, qu'il n'y avait pas de criminalité, pas de violence. Mais les autres, ils disent que voilà, vous avez bien raison, mais il n'y avait pas de liberté. Les libertés basiques n'étaient pas respectées ou ils n'existaient pas du tout. Vous pouvez être emprisonné juste pour vouloir exprimer votre avis au public. Vous ne pouvez pas voyager. Les frontières étaient fermées.
Sachant que la Slovaquie n'a jamais été un État indépendant, j'imagine que les années qui ont suivi la séparation étaient dures. Les Slovaques étaient prêts à assumer les responsabilités qui normalement incombent aux États indépendants?
Alors, en étant à 100% slovaque, je me permets à vous corriger un petit peu ici aussi, parce que entre les années 1939 et 1945, on était déjà un État indépendant. C'était pendant la période de la Seconde Guerre mondiale qu'en fait, on a devenu un État collaborant avec l'Allemagne. Pour revenir à votre question, si les Slovaques étaient prêts d'assumer les responsabilités? Bon, je pense que non, pas du tout. Comme j'ai dit, la division, c'était un choix politique, pas le choix de peuple. Donc, pour les peuples, qu'est-ce qui a changé? La vie quotidienne continuait. On ne peut pas dire qu'à partir de demain, vous êtes les Slovaques, vous êtes plus les Tchécoslovaques et vous commencez à vivre une nouvelle vie. Non, la vie a continué. Mais les responsabilités qui venaient avec, à mon avis, c'était... Les décisions étaient prises sur les bras et sur les dos de nos politiciens. À mon avis, ils l'ont bien géré, on peut dire, avec la difficulté, les situations qui étaient présentes. On est passé par la période de la démocratisation du pays, par la normalisation, on peut dire, on devait construire tout de nouveau, toutes les institutions, tout ce qui allait avec, on devait démarrer de zéro, et à mon avis, on l'a bien géré.
Certains d'entre nous peuvent éventuellement penser que Bratislava, contrairement à Prague, était pratiquement inconnu sur la scène internationale et que c'était le repli sur soi qui caractérisait sa position internationale. Dans le cadre de nos recherches, dans un reportage, j'ai entendu que les Slovaques étaient, je cite, des paysans d'un niveau culturel suspect, ça a marqué mon esprit. Pourtant, cette réflexion méritait d'être nuancée.
Avant la division, Bratislava était peu connue sur la scène internationale. Qu'est-ce qui a changé depuis ?
D'être à 100% bratislavienne, je me permettre de vous corriger un petit peu, parce que depuis des siècles, Bratislava était et reste un carrefour routier, ferroviaire et fluvial international important. Donc, à mon avis, elle n'était pas peu connue avant, mais vous avez bien raison qu'elle est devenue plus connue. Après, elle est devenue la capitale d'un pays autonome, donc le centre politique, économique, culturel d'un pays. Donc, bien entendu, ça a rapporté beaucoup de choses dans la région et cette ville elle-même. C'est la plus grande ville de la Slovaquie, c'est le centre de tout le commerce, de tout ce qui se déroule au niveau de la politique et la vie quotidienne, on peut dire, là-bas. Et bon, c'est ça.
En général, dans le cas d'une séparation, on parle plutôt de fraction totale. Mais l'approche tchécoslovaque montre que la séparation peut se faire de manière pacifique et en nouant de nouveaux liens entre les deux pays. Donc, l'exemple emblématique de cette coopération entre la République tchèque et la Slovaquie, c'est le groupe de Visegrad, dont les deux États sont membres. Donc, c'est un groupe qui a été formé en 1991, qui regroupe bien sûr la République tchèque et la Slovaquie, mais aussi la Pologne et la Hongrie, et dont le but c'est de préparer ces États à l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Donc parlant de l'adhésion dans l'Union européenne, alors Alex, qu'en est-il de l'adhésion du pays dans l'Union européenne ?
On ne peut pas passer à côté des mutations profondes qui ont suivi l'intégration du pays dans l'Union européenne en 2004. Comme on le verra, deux séries de transformations ont eu lieu. Les unes se rapportant à la prospérité, à la croissance financière et économique du pays. La transition économique du pays à l'économie des marchés. On passe du communisme au libéralisme. Et les autres tiennent au caractère politique de l'Union européenne, à savoir ses engagements en matière des droits de l'homme, des droits des travailleurs, etc. En gros, le pays entame une nouvelle ère qui s'avère assez productive et c'est la grâce dans une large mesure à l'Union européenne. Pourtant, le parti eurosceptique d'extrême droite Notre Slovaquie prône la sortie du pays de l'Union européenne et s'oppose à l'actuel des Macron. Ça interpelle.
Nous pouvons remercier Johanna et Alex pour ce point d'histoire très éclairant et pour l'interview de Lucia, qui est slovaque, je vous le rappelle. À vous maintenant, chers auditeurs, de vous immerger dans la culture slovaque grâce au circuit proposé par Joao et Rachel.
Bienvenue à un week-end à l'étranger. Maintenant, on va vous présenter les bonnes adresses pour visiter Bratislava. João, est-ce que la ville est une bonne destination pour les jeunes ?
Eh oui, Rachel, Bratislava, c'est l'endroit parfait pour faire la fête. C'est une destination facile depuis la France, sans décalage horaire et avec beaucoup de vols low cost, avec des compagnies comme Ryanair depuis Paris ou sinon partir vers Vienne, en Autriche, et prendre une navette en bus jusqu'à Bratislava.
Et d'ailleurs, le réseau de transport, comme le bus, le tram ou le trolleybus, est plutôt bien conçu avec des transports de 5 heures à minuit. Il y a même des bus de nuit à petit prix. Pas besoin de louer une voiture ou prendre le taxi, même s'il n'est pas du tout cher.
Merci Rachel. Est-ce que tu penses qu'on peut s'en sortir avec combien par jour?
Alors, le coût de la vie est bas par rapport à la France. Vous pouviez trouver des petits hôtels au centre-ville à partir de 20 euros, comme le Hostel Folks, ou des auberges de jeunesse, comme le Hostel Blues, à partir de 10 euros la nuit. Comptez sur 10 euros pour manger et 1,50 € la pinte de bière. Comme on avait bien parlé avant, avec un climat tempéré que dictent des saisons bien distinctes, on vous invite à partir en été pour profiter de la ville avec du beau temps. Merci et on vous attend en décembre pour la rubrique Un week-end à l'étranger dans un autre pays.
Il ne reste plus qu'à réserver vos billets. Notre émission arrive à son terme et comme on dit en slovaque, Dovidenia.
Dovidenia. Dovidenia.